Bonjour Daniel Guggenheim.
Bonjour.
Ravi de vous retrouver, Daniel. Nos auditeurs vous connaissent bien. Vous êtes économiste et conseiller économique pour l'organisation israélienne pour les Olim Qualita. Et aujourd'hui, avec vous, Daniel, eh bien, on va parler d'économie suite à cette nouvelle qu'on a appris récemment, à savoir la faillite de la Silicon Valley Bank. Et en fait, on redoute une crise majeure et ça constitue la plus grande faillite bancaire depuis celle de Washington Mutual en 2008. Alors, Daniel, pour commencer, que s'est-il passé?
Tout à fait. Vous avez, comme d'habitude, bien cadré le problème. Je dirais, pour expliquer ce qui s'est passé, je dirais même, moi, je suis étonné que c'est pas passé, que ça s'est pas passé plus tôt. Quelles sont les deux, donc, raisons pour lesquelles on est arrivé à cette faillite-là? Premièrement, comme on le sait bien, depuis maintenant plusieurs mois, oui, mois, un an maintenant, les banques centrales et principalement la banque américaine qu'on appelle la Fed, la Banque centrale a augmenté de façon très massive les taux d'intérêt. On était jusqu'à l'année dernière dans des taux même négatifs, ce qui est incroyable, et tout d'un coup, on est passé maintenant dans des taux d'intérêt de 5%. C'est énorme en un an, c'est très agressif. Et ce qui se passe, pourquoi il fait ça, la Fed? Parce qu'ils se sont dit, on s'est trompé. Pas seulement lui, toutes les banques centrales pensaient que l'inflation n'existait plus, que le progrès technologique ferait en sorte qu'il n'y aurait plus jamais d'inflation, je ne sais pas. Et tout d'un coup, il revoit que l'inflation est devenue très, très importante aux États-Unis comme ailleurs, comme en Europe. On était presque à 10%. Certains pays, d'ailleurs, les ont dépassés. Donc, ils ont dit, c'est le premier objectif, c'est casser l'inflation. Pour casser l'inflation, comment dire, la théorie économique dit, faut monter les taux d'intérêt parce que si on augmente les taux d'intérêt, les gens ne pourront plus emprunter tellement, ils devront moins consommer et ça fera baisser les prix puisque c'est une question d'offre et demande. C'est quelque chose qui est logique. Ce qui se passe, c'est que depuis un an qu'ils font ça et de plus en plus ils augmentent les taux, l'inflation baisse, mais pas suffisamment. Et ce qu'il ne comprend pas d'ailleurs, il le dit, je ne comprends pas pourquoi la machine économique américaine n'est pas cassée. Il voulait beaucoup plus de chômage, beaucoup plus de récession, et il n'en a pas. Et donc, de plus en plus, il va fort. Et donc, ça, c'est une chose qui se passe. Peut-être d'ailleurs, c'est pas ça. Beaucoup disent que c'est pas peut-être ça le bon médicament pour casser l'inflation. Mais en l'occurrence, lui, il va maintenant il voulait aller dans cette direction. Et on parlait même maintenant de dépasser les 6% et des choses comme ça. Il faut rappeler qu'il y a des fois même les taux d'intérêt étaient à 10%. Et c'est évident que le marché financier tel qu'il est n'aurait jamais pu supporter une chose pareille. Ça, c'est ce qui s'est passé. La banque en elle-même, pourquoi j'ai dit ça s'est pas passé plus tôt, ça aurait pu être sur beaucoup de banques. C'était une banque, comme vous l'avez signalé, qui est spécialisée pour les hautes technologies. Les gens là-bas donnaient de l'argent en dépôt, souvent des compagnies de haute technologie, et on leur donnait des intérêts plus importants que dans n'importe quelle banque en point de vue des dépôts. Qu'est-ce qu'elle faisait la banque avec ça? Elle prêtait cet argent-là à des entreprises ou à des particuliers à très, très, très long terme. Et à l'époque, bien entendu, il faut se rappeler ce qui s'est passé il y a un an. Les taux où même elle les donnait étaient de 2-3%. Maintenant, d'habitude, ce qui se passait, c'est que ceux qui avaient emprunté remboursaient rapidement à cette banque, même avant terme, leurs prêts. Mais lorsqu'ils ont vu que les taux augmentaient tellement, ils ont dit, nous, c'est formidable. On a des taux très faibles, et on va garder jusqu'au bout, de 15, 20 ans, etc. On va plus rembourser. Et donc, c'est trouvé que elle n'avait plus les liquidités. Maintenant, ce qui se passe, et c'est la deuxième chose, c'est très dangereux de jouer à ça. Est-ce qu'elle aurait dû faire cette banque? Et c'est incroyable qu'elle ne l'ait pas fait. Elle aurait dû s'assurer. On peut assurer ce genre de produit auprès d'autres banques en disant, voilà, si j'ai des crises de liquidité, si ça, comme c'est arrivé, voilà ce que je te demande, c'est que tu me rachètes, personne ne saura, ni la banque centrale, ni rien du tout. Tu me rachèteras et tu me donneras des liquidités en échange. Et en échange, je te donne une prime pour que tu acceptes ce risque. Et cela n'a pas été fait.
Alors Daniel, quand vous parlez de la Silicon Valley Bank, vous dites que c'est surtout une banque qui est spécialisée dans le secteur de la haute technologie. On a souvent parlé avec vous d'Israël comme Startup Nation. Hein, on le sait, il y a énormément de startups en Israël. Et puis Israël est vraiment très spécialisé dans tout ce qui concerne la haute technologie. Justement, la faillite de la Silicon Valley Bank, est-ce que ça va avoir des conséquences désastreuses sur Israël et ses startups?
Vous avez encore mis le point sur quelque chose de très sensible. Il faut savoir, je suppose que vous en avez fait état dans la radio Judaïka, que depuis quelques semaines, il y avait de la part des chefs beaucoup, pas tous, de la technologie, de dire il faut enlever son argent d'Israël et mettre dans la civile, en particulier dans cette banque-là, parce qu'Israël, à cause de la réforme judiciaire, va devenir un pays où il sera plus dur de faire des affaires. En gros. Et c'était une ironie. Même, je vais vous dire, ils avaient annoncé la CVB, vous dites la Silicon Valley, non, CVB, la plus vite. Cette banque-là avait dit, je resterai ouvert le vendredi après-midi plus tard, il y a 2, 3 semaines, s'il y a encore des compagnies israéliennes de technologie qui veulent mettre de l'argent chez nous. Je veux vous dire une chose, que c'est encore pire que ça, c'est que le chef de la filiale de SFB en Israël, est un des chefs de la contestation de la haute technologie contre la réforme judiciaire. Je pense que c'est d'ailleurs plus complexe, parce qu'on l'a accusé qu'en fait, vous me posez la question, est-ce qu'il le savait? Il y en a qui disent qu'il savait ce qui s'est passé, et qu'il a entraîné les sociétés israéliennes de haute technologie à aller là-bas, alors que, et il avait tout, c'est sûr qu'il avait intérêt à dire qu'il faut aller dans les FV à partir du moment où il est le chef en Israël. Et il y en a qui disent qu'ils vont jusqu'à plus loin en disant, tu l'as fait exprès, en vérité, tu voulais que le capitaliste de cette entreprise finance, perde tout leur argent pour financer ce qui allait se passer maintenant. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est très loin. Mais c'est sûr que ce qu'ils ont appris là, et la haute technologie en Israël, c'est qu'il faut garder l'argent en Israël et pas obligatoirement le mettre aux États-Unis. Et par exemple, la banque Leumi et la banque Hapoalim, qui sont deux grandes banques qui ont un département de haute technologie, il y a quelques jours, ont reçu énormément de capitaux en retour de la part des États-Unis, parce que vous savez très bien, comme vous l'avez dit, que c'est-à-dire la banque a été sauvée par le Trésor, pour l'instant américain, la Banque centrale. Et donc, dès qu'ils ont pu, et ce qu'ils ont fait, c'est ceux qui pouvaient ont ramené le maximum d'argent en Israël, dans les banques dont j'ai cité, qui sont spécialisées dans la technologie. Maintenant, du fait, on avait très peur en Israël que beaucoup d'entreprises ne pourraient pas payer leur salaire puisque l'argent était bloqué, très très peu était assuré. Et on s'est dit, qu'est-ce qui va se passer à tous ceux qui sont là, etc. Et le gouvernement avait même une commission pour voir qu'est-ce qui se passait. Netanyahou, depuis Rome, en a parlé. Et apparemment, si le gouvernement américain, en vérité, va payer, apparemment, ce que je comprends, va payer les salariés de la haute technologie en Israël. Donc, apparemment, ce problème-là, qu'on a eu peur de liquidité, va être résolu, puisque maintenant, on dit que la SFB a recommencé normalement, avec ses nouveaux directeurs, à redonner ce qu'il fallait redonner. Donc, il n'y aura pas ce problème, heureusement, de liquidité.
D'accord, mais alors, donc ça c'était pour Israël. Est-ce qu'il y aura des conséquences importantes de manière globale sur d'autres pays, sur d'autres continents même?
Concernant, enfin, votre dernière question sur le fait qu'il y a un risque systémique dans le monde entier, parce que souvent, les crises ne sont pas économiques, commencent par les crises financières, c'est ce qui est arrivé en 1929 à la bourse de Wall Street, et ce qui est arrivé souvent, comme vous l'avez même cité dans votre au début, il y a eu il y a quelques années, la grande crise financière aux États-Unis. Et des fois, bien qu'une économie n'ait pas un état désastreux, c'est le système financier qui casse l'économie. Moi, je veux être très, très prudent. Je vois, comment dire, les gouvernements, et c'est normal, les ministères des Finances, j'ai vu en France, je suppose en Belgique, ils font la même chose. Et chez nous, ça peut jamais arriver. Je ne sais pas. J'espère que non. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut être extrêmement prudent. Et moi, souvent, ce que je vois, c'est comment les bourses réagissent. Et les bourses n'arrêtent pas de chuter. C'est-à-dire, il y a eu un jour où ça s'est un petit peu arrêté. Et maintenant, ça recommence à chuter. Et c'est pas bon. C'est venu à des niveaux très, très importants. Et ce qui monte énormément, c'est les obligations qui avaient beaucoup baissé. Et ça veut dire que c'est un problème de confiance du marché financier en Israël et dans le monde.
Merci beaucoup, Daniel Guggenheim, pour vos réponses. On était ravis de s'entretenir avec vous. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes économiste et conseiller économique pour l'organisation israélienne Qualita. Merci beaucoup, Daniel, et à très bientôt.
Merci.